Vous écoutez Ainsi soit-elle. Bonjour, bonjour. Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3. Vous êtes avec l'équipe d'Ainsi soit-elle. C'est Hélène Nazon derrière le micro. Il y a Marie Medec qui est là avec Evelyne à la mise en onde et à la la musique. Et oui, allô les filles. Excusez. Salut. Et la musique et en fait tout le contenu de l'émission. On a une émission spéciale aujourd'hui avec une invitée très chère à mon cœur, c'est Monique Follet. Bonjour Monique.
Bonjour Hélène.
Donc Monique qui est dans Mes amis de filles, une émission de radio féministe également. À CKIA, on ne manquera pas de vous rappeler les heures de cette émission à la fin de notre émission. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de plein de choses. On va parler de l'histoire du Guatemala, se mettre un petit topo sur la question de la guerre civile, les droits des Autochtones là-bas. Une personne que moi, j'ai appris à connaître aujourd'hui, dont j'ai envie d'entendre parler par toi, Monique, c'est Rigoberta Menchú. Puis, ça va nous amener tout ça à parler d'un sujet assez dur, mais qu'on doit absolument aborder, même on doit en parler, c'est le viol en temps de guerre et le viol, en fait, comme arme de guerre. Puis, ce qui va nous amener aussi à parler, en fait, on parle de tout ça aujourd'hui, des tribunaux de conscience.
Ce qui est le qui était le but premier là, de la
de l'entrevue au départ.
D'aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance d'assister à un tribunal de conscience au Guatemala au mois de mars dernier. Mm-hmm. Fait que, tout à fait par hasard, je suis tombée dans une table de féministes par hasard. C'est une chose qui est assez extraordinaire. Puis voilà, c'est un peu ça. Là, j'arrivais pour le 8 mars avec l'intention de me trouver une marche de 8 mars. Puis je suis vraiment aussi eu la chance là, de rencontrer une femme péruvienne d'ailleurs qui était. Moi, j'arrivais le 3 mars. Là, j'étais dans deux trois avions là toute la journée. Je partais d'Argentine, je m'en allais au Guatemala. Puis je suis assise à côté de cette femme péruvienne qui est une invitée du tribunal de conscience, qui a elle-même été prisonnière politique.
Donc, torturée.
C'est une situation différente, au Pérou, mais quand même, tout se rejoint finalement là-dedans. Oui. Puis, qui m'a parlé que le lendemain matin, il y avait un tribunal de conscience qui durait deux jours. C'était le jeudi, vendredi, juste avant le lundi 8 mars où on allait marcher. Donc, c'est un peu ça que tu m'as demandé là, de raconter un peu.
Mais
c'est quoi
ça,
un tribunal de conscience?
C'est ça. En parlant de ce sujet-là, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix de parler du viol en temps de guerre, comme arme de guerre.
C'est ça qui s'est passé au Guatemala. Mm-hmm. Puis le tribunal de conscience, ben, c'est justement organisé par un groupe de femmes qui appelait ça tribunal de conscience contre la violence sexuelle exercée contre les femmes durant le conflit armé au Guatemala. Puis ça, le conflit armé est situé des fois là, de 60 à 96. Il y en a qui le mettent précisément que ça a duré 36 ans. Mais vous voyez, en gros, là, c'est
non,
à peu près
c'est
ça.
Non, c'est ça. Fait que pas le choix pour comprendre tout ça, de parler de tous ces sujets. Donc, c'est vraiment une mission thématique et spéciale. Vas-y, Monique.
Mon thème, après, c'est la musique.
Oui, ben
bon,
oui.
Là, j'ai ma Mexicaine préférée de ce temps-ci, qui est Liliana Felipe. Donc, OK, on parle du Guaté, mais une musique mexicaine. Mais dans le fond, Liliana Felipe est aussi argentine. C'est parce qu'elle est partie d'Argentine pendant la dictature militaire des années 70. Donc, tout ce lien. J'ai trouvé 4 disques d'elle au Mexique. Puis, elle est très engagée politiquement, féministe. Et, elle a dénoncé la misère, la guerre, la corruption et tout. Donc, ça va être notre autre fil conducteur. D'ailleurs, on pourrait peut-être en écouter
un petit
20 secondes.
Un petit bout.
No he podido quitarme de la cabeza la idea de que si no escribiera contra la violencia sería cómplice de ella.
Tradition simultanée?
Oui, elle dit, j'ai pas pu m'enlever de la tête que si je me mettais pas à écrire sur la violence, c'est comme si j'étais complice. Oui. Donc, imaginez, c'est un peu son fil conducteur. Fait que si elle écrit là-dessus, ben elle a chanté aussi. Uh-huh. Puis elle est assez théâtrale des fois dans ses chansons. On va avoir
de la découvrir.
Juste 4-5,
ben oui, mais non, moi je suis contente. Ben c'est parfait. Donc on rentre de plein pied dans notre sujet. Toi, t'es allée en voyage cet hiver. T'as fait un voyage qui t'a mené jusqu'au Guatemala.
Moi, je me suis payée une belle petite tranche de vie là, de 7 mois et demi en Amérique latine. Commencé par le Mexique. J'ai été 2 mois en Amérique du Sud, mais juste un petit peu là, au Paraguay, en Bolivie, en Argentine. Ensuite, j'essaie d'arriver sur le Guatemala, puis c'était là le 3 mars, là, où vraiment... Je suis tombée dans une table féministe.
Ben oui, carrément, parce qu'en fait,
c'est mieux tomber.
C'est le 4 et le 5 mars, les tribunaux de la conscience.
Et après, là, j'ai passé à peu près 2 mois au Guatemala. Après, j'ai passé à peu près encore 2 mois au Mexique, puis je suis revenue ici, là, dans le mois de juillet.
OK.
Là, j'ai recommencé à travailler depuis. Alors voilà, c'était vraiment... je le savais. Moi, j'étais déjà allée au Guatemala il y a à peu près... c'était à la fin des années 80. C'est pour ça que j'avais comme le goût d'y retourner parce que je m'en rappelais plus beaucoup, puis je me disais, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun lieu que je vais connaître, tu sais, Panajachel, le lac Atitlan, ces choses-là, tu te dis, pouf, est-ce que je vais me reconnaître, est-ce que ça a tellement changé
d'après. Mais c'est ça que j'allais dire, de 80 à, c'est quand même une bonne vingtaine d'années.
25 ans, puis là, tu te dis, premièrement, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais en plus, les images que j'avais, elles n'existent plus, là, en tant que telles, ça a beaucoup changé. Et, dans la fin des années 80, c'était le conflit armé.
Uh-huh.
Puis je me rappelle que j'étais arrivée à Panama, disant, moi, je vais aller aussi visiter les petits villages autour, là, San Pedro, Santiago, San Marcos, tout ça. Puis là, quand je suis arrivée là, à Panajachel, je te parle de 87, 88.
Ça
avait
tendu, c'est ça, tu dis,
conflit armé. Moi, dans ce temps-là, tu jouais juste avec mon petit pack-sac, je m'occupais pas trop là, de ce qui se passait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, des jeunes touristes qui me disent, ben nous, on était sur ce lac-là il y a quelques jours, parce que tu voyages dans les villages en bateau, là. Il n'y a pas des routes pour aller partout. Puis là, on était dans le milieu d'un tir, là, des rebelles puis de l'armée, que le pilote, le propriétaire du bateau s'est couché à pleuvante, puis on en revirait de bord. Fait que là, moi, ça m'a fait comme, OK, ça, c'était la semaine passée. C'est beau, moi, j'essaye même pas d'y aller. Fait que je suis même pas restée dans ce coin-là.
Ouais, ouais.
Puis là, tu vois, en 2010, j'y vais. Et cette pyrivienne-là dans l'avion, qui est une invitée du tribunal de conscience, me dit que c'est la UNAMG, l'Union nationale des femmes guatémaltèques. C'est un groupe de femmes qui existe depuis les années 80, puis qui a dû aussi travailler depuis l'exil, là, clandestinement, qui ont décidé que, après des années de préparation, qu'il fallait... que les femmes qui avaient vécu des violences sexuelles pendant le conflit armé, que là, ça faisait tellement d'années là, qu'ils travaillaient avec des femmes, puis qu'ils ramassaient des témoignages, puis tout ça. Ils étaient en train de construire la force que ça prend pour demander réparation au gouvernement.
Oui.
Donc, c'est un peu ça le but, le premier. Mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard du tribunal de conscience. Peut-être que ce serait intéressant. Bon, c'est quoi ce conflit armé-là?
Oui, c'est ça que je voulais te poser comme question, parce que moi, vraiment, néophyte en la question, fin des années 80, tu dis conflit armé, c'est qui? Bon... tir entre les rebelles, l'État, qu'est-ce qui se passait?
Ben c'est ça, c'est qu'il y avait, premièrement, le Guatemala aujourd'hui là inclut à peu près 11 millions de personnes, dont la moitié sont des Indiens de descendance maya.
OK.
Puis maya, là, c'est pas une, là. Rigoberta, elle a dit qu'il y a 22 ethnies maya différentes, dans le petit Robert, on me dit 21, et 21 langues, là.
OK?
Et c'est ce qui fait que le reste de la population, c'est les Métis et les Blancs. Puis, historiquement, c'était ceux qui avaient le plus le pouvoir, plus l'argent. Puis, les indigènes, qui d'ailleurs, il y en a disparu beaucoup.
Classe populaire, ont été, exploité.
Oui, c'est ça. Fait que c'était ça. Il y en a qui ont parlé de génocide des Indiens, là, au Guatemala. Puis en plus, aujourd'hui, c'est une population qui est encore catholique à peu près à, ben, pas loin de 70%, protestant à 30%, ce qui reste, tu sais, les chiffres du Robert, là, tu sais, un petit peu plus que 0% pour, ils appellent ça le syncrétisme indien, là.
OK.
Mais même Rigoberta, elle a étudié la Bible, puis elle est devenue catholique.
Oui, pratiquante.
C'est un pays où l'agriculture représente 58% des emplois, donc c'est encore assez fort de la population active. Les grandes cultures, ben on sera pas surprise, là, c'est l'exportation. Banane, café, coton, canne à sucre, tabac. Ils produisent du pétrole, mais pour à peu près peut-être 10% de leur consommation. C'est des pays qui sont, tu sais, relativement pauvres, mais c'est toujours parce que les richesses naturelles du pays sont exploitées par d'autres,
sont
là, qui font les profits.
Par une minorité. On connaît le pattern.
Ouais, puis l'autre chiffre est pas surprenant non plus quand on connaît ce pattern-là, c'est que, ben, 2% de gens sont propriétaires de 65% des surfaces agricoles. Donc, ils ont le pouvoir qui correspond à ça. Pis c'est ceux-là que Rigoberta Menchú, que les gens appellent les Ladinos, qui sont des Métis ou des descendants d'Espagnols. Donc, il y a eu aussi, pendant la guerre, après la guerre, la cause de la guerre, puis les manques de terres, parce que là, il y a des ladinos qui se sont appropriés beaucoup.
Qu'est-ce que c'était un peu des tensions raciales?
Ben,
c'est
oui,
ça que tu disais, à l'origine de cette guerre-là, c'est un peu les tensions raciales entre les différents groupes sociaux.
Puis aussi, ben...
Entre les Blancs, les Métis, les Autochtones.
D'une certaine manière, on pourrait dire... Ben, les Blancs et les Métis, ils étaient pas mal ensemble. Ouais, c'était contre les Mayas, là. C'était vraiment... Puis, qui sont aperçus qui étaient directement visés et qui étaient aussi la population la plus pauvre. Puis, ça a provoqué aussi un grand exode rural là, dans ces années-là, là, vers la capitale surtout, ce qui cause d'autres situations aujourd'hui.
D'où la pauvreté. Si tu dis que 58% des gens vivaient de la terre, s'il y a exode rural, donc ces gens-là arrivent en ville, quel emploi ils ont?
Quand on lit l'histoire de Rigoberta Menchú, là, que j'ai trouvée à la bibliothèque, là, puis c'est drôle parce que c'est écrit en 82-3, avant que là, le prix Nobel de la paix en 92, là, par Elisabeth Burgos, c'est disponible à Gabriel, dans le réseau des bibliothèques de Québec. Donc, quand tu lis ça, là, elle te raconte là, que son père, puis les parents de son père, là, se cultivaient à terre, puis ça mourait de faim.
Ouais.
Parce que là, il devait de l'argent pour les médicaments, puis la santé, puis là, les propriétaires abusaient d'eux autres, puis là, il y avait jamais de salaire. Fait que c'était ça. Fait que moi, je vais partir ma petite histoire rapido, là. En 1954, il y avait un gouvernement d'un colonel, mais qui était quand même assez progressiste, Arbenz, qui était en train d'élaborer une réforme agraire. Fait qu'il a été renversé avec l'aide de la CIA. Puis après ça, là, c'était une succession de coups d'État militaires. Puis là, c'est là qu'on en arrive aussi que, finalement, les Autochtones, les indigenous, les Indiens là-bas, les Mayas, les descendants de Mayas, ont commencé à s'organiser. Bon, puis c'est tout là aussi. Il y avait déjà une union là de révolutionnaires là, qui travaillaient dans l'ombre, puis ça a vraiment plus éclaté. Fait que c'était vraiment ça, c'était les rebelles contre les gouvernements qui ont passé, puis contre les propriétaires terriens. Donc, dans cette guerre-là, il est mort à peu près 100 000 Mayas, paysans là, et paysannes, et à peu près autant 100 000 qui se sont réfugiés au Mexique. Qu'il y a eu. Puis finalement, ben, c'était peut-être un cas, je peux pas dire que j'ai étudié la question à fond, mais leur lutte, elle a quand même été reconnue un peu plus par la communauté internationale quand le Nobel de la paix a été décerné à Rigoberta Menchú en 92. Fait que ça a forcé un peu, là, je pense, les gens
par
se rendent compte de ce qui se passait.
Reconnaissance de la lutte derrière.
Puis l'État a finalement aussi reconnu là, le caractère multiethnique puis multilingue de la nation guatémaltèque. Okay. C'est pas mettant fin à toute la ségrégation là, depuis l'époque coloniale, 19e siècle et tout. En 87. Moi, là, quand je me suis promenée au Guatemala cet hiver, là, entre autres, peut-être plus des villages comme à San Pedro, autour du lac Atitlan et tout ça, quand tu croises des gens dans la rue, ils parlent leur langue. Je comprenais rien, là. J'ai beau parler espagnol,
ouais,
je comprenais pas
les...
là, leur dialecte, là.
Okay.
Leur langue, en fait, je pense qu'on pourra
oui,
appeler ça des langues. Fait que c'est très vivant. Les femmes au Guatemala portent encore l'habit traditionnel. Okay. Les hommes, c'est plus rare, là. Ça, c'est vraiment
c'est,
okay, pas, mais...
c'est plus le costume.
Ben, oui, c'est vraiment les femmes avec le whipil encore.
Plus
les femmes
les
avec les... Oui. Oh, okay. Les hommes. Moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai remarqué un monsieur avec les pantalons traditionnels en deux mois.
Mais sinon,
là.
Les femmes, vraiment, costume traditionnel. Ça doit être beau, ça doit être très coloré, comme tu dis, pas juste au niveau des langues, mais...
Ouais. Donc, ça donne une idée. La paix a été officiellement signée en 96, là, ce qui a permis de délimiter un peu là, les 36 ans de guerre. Là. Puis l'UNRG, là, l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque, entre eux autres et le gouvernement. En 97, là, c'était le désarmement des combattants.
C'est ça que j'allais te demander. Donc, c'est pas tout de suite qu'ils ont déposé les armes. Ça a pris un processus après la signature.
Puis comme a déjà dit un archevêque au Salvador, là, c'est « Oui, la guerre est terminée, mais la paix n'est pas encore arrivée.
Uh-huh. »
Bon, ça, voilà, c'est peut-être la seule citation que je pourrais te donner d'un archevêque. Mais en fait, il doit y avoir du monde qui ont dit ça. C'est assez facile à constater. C'est pas parce que la guerre est finie que la paix est là, tu sais.
Non, exactement.
Fait que c'est un peu ça qui se vit encore au Guatemala. C'est pas parce que la guerre est finie qu'il n'y a plus de discrimination envers les Autochtones. Mais ils ont repris du piquant, ils ont repris de la fierté, ils sont plus organisés.
L'organisation reste aussi les liens, les réseaux qui ont été faits.
Ouais. Fait que malgré des problèmes, là, qui restent quand même, là, dans dans la société. Tu sais, on peut parler d'analphabétisme. Les statuts des communautés indiennes, là, c'est pas tout à fait réglé, ça non plus. Il y a encore une répartition des terres qui est pas égale. Il y a de la délinquance, en tout cas, on peut... peut-être que ça, on pourrait dire qu'on a tracé quand même un bon topo.
Ben oui, c'est ça. Puis, OK.
Il y a un auteur guatémaltèque qui est peut-être intéressant. C'est nous que ça a le temps de lire des romans, mais tu sais, il y a plein de choses là, qu'on peut lire. Ça, mais c'est intéressant, c'est Miguel Ángel Asturias, qui a eu un Nobel de littérature dans les années 60, 67, je crois, qui est indien par sa mère, et puis qui est mort là, déjà là, depuis peut-être 30 ans. Là. Il est mort en 74. Ben lui, il a dénoncé les injustices dans ses livres. Puis, entre autres, il écrit un livre qui s'appelle « Monsieur le Président », un roman, puis dans lequel il dénonce aussi, dans le Pape Vert, il dénonce aussi les trosses des États-Unis, puis les la misère, mais sous forme un peu romancée.
OK. Donc, on serait peut-être prête à aller en musique. Tu peux nous présenter une première chanson? Nous parler un peu
première,
plus de la
chanson. Première, tantôt, 23 ben oui. secondes. Donc, voici, on va écouter Liliana Felipe, cette Argentine maintenant mexicaine, sur l'album Matar o no matar, tuer ou ne pas tuer. Alors, on écoute Tatata, puis ça va se suivre directement, c'est des chansons assez courtes de la chanson titre Matar o no matar.
En el fondo, ta, 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 los soldados, ta, 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 hacen lo mismo que los asesinos. Solo que son más desenfrenados, más poderosos y más altaneros. Aquellos que están en posesión del poder y de la violencia se alaban a sí mismos. Desde que el mundo es mundo, desde que el mundo es mundo, 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 mundo.
Donc, on vient d'écouter Matar o no matar. Vous êtes avec les femmes d'Incisquatel. On est avec Monique. On vient de faire un petit topo sur le Guatemala, donc une mise en contexte historique. Maintenant, on va parler d'une personne en particulier. En fait, c'est la première figure connue du Guatemala sur la question de la lutte pour les droits des Autochtones, et c'est Rigoberta Menchú.
C'est ça, Rigoberta qui, ben comme on l'a dit tantôt, qui a eu un prix Nobel de la paix. Donc moi, j'ai refeuilleté ce livre-là que j'avais déjà lu, moi, Rigoberta Menchú d'Elisabeth Burgos, qui est disponible dans le réseau des bibliothèques de Québec, qui a été écrit en 83, presque 10 ans avant qu'elle ait un Nobel de la paix. Ben, cette petite Rigoberta-là est née en 1960, puis toi aussi, Hélène, t'as ramassé des choses pour sa vie plus récente.
Je pourrais compléter plus tard.
Ouais. Cette femme-là a 50 ans aujourd'hui, là. Elle est née en 1960, puis est née dans un petit hameau là, qui s'appelle Chimel, dans le nord-ouest du pays. Elle est de l'ethnie Maya Quiché, les Quiché. Et une des 22 ethnies là, qu'elle nous dit qu'il y a là. Et puis, dans le fond, là, elle a réussi à amener sa place publique, son histoire qui est celle de toutes les indigènes au Guatemala. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment
comme
une réalité.
Un symbole, comme un. Ouais.
Puis, qu'est-ce qui fait que c'est elle qui est ressortie, que c'est elle qui a eu un prix Nobel? Garde.
Le
moi, j'ai pas cette réponse-là, mais tu sais, des fois, il y a des enchaînements de choses. Puis, elle était assez allumée, intelligente. Elle a compris très jeune. Elle travaillait, là, elle a 8 ans, là, tu sais. Je veux dire, elle a pu travailler parce que, je veux dire, le premier salaire, ça voulait pas dire qu'elle travaillait avant, mais elle n'était pas payée parce que des fois, quand sa mère, elle allait travailler dans une ferme, là, de café, là, d'un riche propriétaire, là, puis qu'elle accompagnait, là.
Elle travaillait enfin, aussi.
Non, elle faisait juste comme aider sa mère pendant que la mère allaitait le bébé, puisqu'il y en avait toujours un autre. Ben, mais tu sais, elle n'était pas payée.
C'était pas reconnu,
non,
c'est ça.
Non, elle faisait juste compenser pour les petits votes que sa mère pouvait pas, mettons. Fait que, tu sais, c'était ça. Fait que, tu sais, elle a... Puis son père, c'était un militant. Donc, elle est aussi née dans une maison où il y avait une conscience là, d'injustice, tu sais, envers leur peuple. Tu sais, ils arrivaient dans une montagne, ils pouvaient défricher, cultiver. Tu sais, ça pouvait prendre 8-9 ans avant de produire. Puis là, il allait chercher de l'osier quelque part, vendre quelques petits paniers en attendant que la terre puisse produire un peu, tu sais, puis c'était... tu sais, c'est dur à imaginer, là, quelles
des sortes conditions de vie qu'ils ont pu avoir. Oui. Ouais, ouais.
Donc, elle, justement, elle a vu aussi son père partir, travailler clandestinement, disparaître, il est emprisonné, il en est ressorti, donc...
Lui, il avait pris le maquis, en fait.
En fait, c'est ça, on peut dire ça comme ça, mais il ressortait, il faisait des actions. On sait qu'il y a le groupe du 31 janvier 80.
Oui,
que c'était le nom d'un
1980,
groupe. Puis que c'était un massacre d'Autochtones qui revendiquaient des droits puis de la justice. Puis Rigoberta, elle a appris l'espagnol, elle avait 20 ans. Elle s'est aperçue que sa seule arme, c'était la parole. Fait qu'elle était mieux de parler la langue de l'oppresseur aussi. Elle était mieux d'être capable de comprendre ce qu'ils disent puis de pouvoir leur dire
connaître
ce qu'elle pensait.
Connaître les outils du maître, c'était pouvoir ça. Déconstruire sa
c'était maison. Si c'est ma seule arme, ben, servons-nous-en. Puis, elle a appris l'espagnol de mémoire, là, comme elle dit, sans école, là. Quand on lit ce livre-là, là, c'est elle qui parle. Il y a une... Elisabeth Burgos habitait en France à ce moment-là, même si elle est d'origine sud-américaine. Elle a invité en France pendant une semaine. Ils ont parlé, ils ont écrit ce livre-là. Puis, c'était comme... On voit vraiment tout. Elle explique les coutumes, qu'est-ce qui se passe à la naissance d'un enfant, les différences entre les filles et les gars. Je veux dire, c'est incroyable, le principe du mariage. On voit vraiment comment elle vivait. Là.
C'est comme tu dis, à travers son parcours, on voit un peu le parcours de des milliers de femmes, dans le fond.
C'est ça. Donc, disons qu'il y a la possibilité de voir ça aussi. C'est à peu près 320 pages. Donc, c'est de la discrimination là, envers les Autochtones depuis la conquête espagnole. Puis, elle a choisi de s'exprimer au nom de toutes les vaincus de toutes les époques. Là. Donc, voilà. Donc, elle a été une de celles qui a survécu. Comme de raison, on sait là, que c'était très dur. Et il y a des Autochtones et paysans qui ont formé ce qu'ils appellent la CUC, là, le Comité d'unité paysanne, le CUC, qui, elle a été membre de ça, puis comme militante. Puis après ça, elle a adhéré aussi au Front populaire du 31 janvier, qui avait été une journée où son père avec...
oui, avec une vingtaine de paysans qui ont été brûlés dans un incendie qui avait été carrément provoqué par les forces de l'ordre, par l'État. C'est un assassinat politique de masse.
Oui, parce qu'ils venaient d'aller faire une manifestation.
Exactement.
Dans le coin. Ben donc, ils ont créé ils ont donné ce nom-là, le Front populaire du 31 janvier, une organisation. Puis, donc elle a continué à lutter. Là. Puis elle a vu aussi son... en tout cas, son père aussi, avant ça, il avait déjà été attrapé, torturé au point où il en a eu pour presque un an à récupérer.
OK.
C'est assez horrible. Donc, elle a vu...
Elle a vu la répression de Vizou, là, vraiment.
Puis elle a continué à rester impliquée.
Quand même.
Oui. Fait que il y a plus tard, c'était justement l'anniversaire 31 janvier, là, l'anniversaire du massacre des Indiens qui étaient venus du Quiché pour occuper l'ambassade d'Espagne, puis à la capitale pour faire connaître leur sort. Puis il y avait son père, le Vicente Menchú, qui était à la tête de ce groupe-là. Fait qu'après, un petit peu plus tard, quand ils ont été ailleurs, ils ont tué. C'est ça. Oui. Donc voilà, je vous passe le détail là, de toutes les situations que ces Autochtones ont pu vivre là, au fil des années. Mais elle a ses deux frères aussi qui ont été torturés, qui sont morts. Ses deux sœurs sont restées dans la guérilla. Je ne sais pas comment ça a fini leur histoire. Sa mère, à un moment donné, a été enlevée, séquestrée. Ils l'ont trouvée des jours plus tard, puis elle a agonisé pendant des jours, là.
Tu sais, c'est assez dur, non, c'est ça, on dit ça, terme. Mais non, c'est ça. C'est la chair de poule.
C'est ça. D'ailleurs, là, je le vois, là, que, tu sais, quand tu dis son père, là, qui est mort brûlé, mais elle a réussi à le voir avant qu'il meure.
OK.
Fait que c'est un peu ça aussi, elle était, je sais pas où, juste en quelle année, là, mais Rigoberta est devenue clandestine aussi. Elle a sorti, elle est allée au Mexique. Il y en a qui travaillaient là, depuis l'exil. Puis, et voilà. Mm-hmm. Donc, puis elle a continué à revendiquer. C'était probablement un bon coup de pouce pour la lutte autochtone. Des fois, ça change pas grand-chose. Là, on regarde en Birmanie, en dessous, là, que ça n'a pas changé rien, qu'elle ait eu un Nobel. On se demande, en tout cas, on a l'impression d'ici que ça change
pas grand-chose. Que la communauté nationale bouge pas vraiment, mais en tout cas, ça fait connaître la lutte. Il y a comme les gens en parlent.
Quand même en 92, quand Rigoberta Menchú a eu le prix Nobel, ça là, il y a une partie bougé. De la communauté internationale qui s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose. Puis le Guatemala a quand même pris des dispositions. En tout cas, les accords de paix sont signés en 96. Mm-hmm. Donc, c'est probablement qu'il y avait déjà un bon bout de fil, tu sais. C'est pas quand ça fait déjà 30 ans que tu te bats.
Non, c'est clair. Puis tu vois, en tout cas, moi, dans les informations que j'avais trouvées, très parcellaire, mais qu'entre autres, elle a vraiment continué sa lutte sur un site web que j'ai trouvé l'information où il disait qu'elle avait été ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO dans les années 90, qu'ensuite elle a été retournée au Guatemala. Elle a tenté aussi, toujours dans la lutte, ça nous amène un peu à faire le lien, c'est sûr qu'on va parler avant de la violence sexuelle, du viol comme arme de guerre, mais on voit déjà l'idée... la nécessité de rendre justice, de traduire en justice hein, les personnes, en fait, de combattre l'impunité. Elle, tu vois, elle a cherché à juger l'ex-dictateur militaire du Guatemala, Efrén Ríos Montt, qui avait été candidat à la présidentielle de 2003, donc devant les tribunaux espagnols en 99 pour les crimes commis contre la population, contre les citoyens. Puis ses tentatives ont échoué, mais quand même, ça lui a fait une super bonne publicité au type. Puis aussi, c'est ça, elle est toujours revenue sur la question, comme tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des gens qui avaient employé le terme, puis elle, certainement, elle l'a fait d'employer le terme de génocide contre les peuples mayas au Guatemala. Ouais. Puis tu vois, aujourd'hui, elle est membre de la fondation Peace Jam, puis aussi une organisation, la fondation Rigoberta Menchú, qui continue à lutter sur cette question-là. Donc, on voit que ça se poursuit même.
Je me rappelle, à la fin des années 80, il y avait à Québec un comité de solidarité avec l'Amérique latine.
Oui.
Puis je me rappelle, on disait les bureaux de Carrefour Tiers-Monde, puis j'en ai signé des pétitions qui demandaient qu'on envoyait à l'ONU pour que Rigoberta Menchú ait un prix Nobel de la paix. On pouvait faire des... Il y avait des gens qui montaient des dossiers, là.
Comme une pression internationale. Oui. Bien, elle a eu son prix Nobel. Fait que ça fait un peu le tour, le topo qu'on voulait faire sur cette personne-là qui nous permet de faire le lien un peu entre la lutte des droits autochtones, mais justement une militante qui va nous amener à parler plus spécifiquement de la violence exercée contre les femmes en tant que conflit armé, entre autres au Guatemala.
On écoute toujours Liliana Felipe avec la chanson qui s'appelle Mala, mauvaise.
¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal.
censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana.
On est tellement emballé par notre sujet, inspiré. On se disait, quand il est temps de parler d'oppression, c'est ça que tu disais, Monique, j'ai trouvé ça beau. On est toutes et tous spécialistes, malheureusement, mais à des degrés divers, c'est évident au niveau de l'expérience. Alors, on va parler, pour nous introduire à la question des tribunaux de conscience, hein, rappeler peut-être aux gens qui nous écoutent que, en fait, de 1960 à 1996, il y a eu la guerre civile au Guatemala, qui a fait environ 300 000 morts, comme on le disait tantôt, dont 90 % de civils. Puis le viol des femmes, donc les violences sexuelles exercées contre les femmes, parce que comme on se disait aussi en studio, pendant la musique, il n'y a pas de petits ou de grands viols. Il y a des
T'avais
viols.
300 000 morts, toi?
Oui, moi j'avais ça comme... Toi, t'en avais combien?
j'étais pas rendue... Dans le Robert, il disait 100 000 avec 100 000 expatriés.
Oui, mais en tout cas, dans la source plus récente que j'ai eue, en fait, c'est un article qui a été publié par Elisabeth Desgranges, puis elle allait jusqu'à... C'est une chercheure, en fait, c'est une anthropologue, elle allait jusqu'à 300 000 morts, elle. Mais... Donc, c'est ça, tout ça pour dire que le viol des femmes a constitué une pratique généralisée, massive et systématique, mise en place par l'armée dans leur cadre de leur lutte dite contre-insurrectionnelle, d'où l'idée avec les tribunaux de conscience de réclamer justice, de lutter contre l'impunité, puis de dire ces gens-là doivent être traduits en justice. C'est un petit peu ça mon introduction que je voulais te faire.
Ben c'est ça, parce que moi, je me suis plus éveillée à tout ça, là, parce que j'ai assisté là, au tribunal de conscience qui est organisé par l'Union nationale des femmes guatémaltèques. C'était vraiment un focus femmes féministes. Donc, puis eux autres disent que durant les 36 ans qu'a duré le conflit armé, parce que c'est vraiment leur expression, eux autres, ils disent pas guerre civile, ils disent conflit armé.
OK, ils disent vraiment conflit armé.
Ah oui. Interne, qui a eu lieu au Guatemala, ben les violences sexuelles ont constitué une pratique généralisée, massive, systématique, réalisée par des agents divers de l'État, là, tu sais, de l'armée ou
mercenaires, soldats.
Aussi comme un instrument de guerre. Et un outil pour générer la terreur qui rendait les droits humains absolument caduques, et puis ainsi que le droit international humanitaire, là, ça n'existait plus. C'était une pratique généralisée durant les massacres. Vraiment que les violences sexuelles, là, c'était comme on nous dit l'antichambre de la mort. La commission d'éclaircissement historique, parce que ça a été une commission qui existe au Guatemala, ça faisait partie des accords de paix, d'avoir de créer une commission des éclaircissements historiques, fait qu'ils ont fait des chiffres, eux autres, après. Fait que des chiffres qui nous proviennent quand même là, d'une volonté, parle. Là, ouais. Que... Par rapport aux violences sexuelles, il y a, c'était vraiment très élevé par rapport aux autres violations des droits humains. Les autres, ils ont réussi à enregistrer 1465 cas de violences sexuelles, puis ils ont pu documenter 285 cas, parce que ça, c'est comme dans le but là, de réparation plus tard. Et puis ça, c'était un type de violence qui était vraiment dirigé à 99% contre les femmes et des femmes indigènes à 80%. Ah, donc, c'est là qu'on voit là, que les vraiment, autres ouais. femmes, ladino ou peu importe, c'est vraiment, c'est ça. Il y en a qui disent aussi, comme j'ai trouvé un article quand même assez intéressant dans le dernier numéro de la revue Contact là, de l'automne 2010, ils disent aussi que, bon, ça peut exister, là, tu sais, on nous dit 99% de femmes, ouais. donc ça peut exister le viol des hommes,
oui.
mais c'est tellement, c'est sûr, c'est encore plus tabou, là, puis c'est tellement une autre échelle que c'est pour ça, tu sais, qu'on en parle quand même pas beaucoup, mais tu vois, ça fait ce qui définissent là, comme pouvant faire partie d'une violence sexuelle, comme pour les hommes, là, quand on les oblige à rester nus 24 heures dans une cellule, tu sais, observer ouais. c'est des types, ça. Même si ça allait pas là, jusqu'au viol avec pénétration, tout ça, ils appellent non, ça quand même.
Ils appellent ça quand même. C'est intéressant de voir le spectre, justement, que ça va recouvrir.
Article très intéressant, donc, dans cette revue, c'est une entrevue de Pascal Guéricola avec Fanny Lafontaine, qui, entre autres, a travaillé avec Louise Arbour. C'est « Violences sexuelles non à l'impunité. En temps de guerre, le viol et les autres crimes de nature sexuelle sont courants. Le droit international et celui des États commencent à les reconnaître. » Donc,
oui. Puis on en parlait justement ensemble hier, puis on se disait justement que, comme tu dis, ça commence à être reconnu comme arme de guerre dénoncée, puis on se disait que il y avait les femmes au Rwanda qui avaient participé à ce que ça soit reconnu.
Moi, j'ai déjà entendu, j'avais fait une émission sur avec Angèle Aubin dans le temps, là, ça, qui arrivait justement de la région du Darfour, puis elle disait que ça avait été les premières femmes à vouloir emmener ça sur au tribunal pénal. Et puis pour que ça... ça peut être écrit, là, tu sais, comme c'est un délit, mais pour qu'il se passe quelque chose, il faut que quelqu'un poursuive quelqu'un.
Uh-huh. Puis ça, c'est quelque chose parce qu'on sait que dans la dynamique, justement,
la documentation que ça prend.
Exact. Les recherches, puis entre autres, je me souviens, hier, je me disais, il y a le film, entre autres, de Raymond Provencher qui est sorti en 2007, Le déshonneur des casques bleus, qui traite aussi de ces questions-là, puis on se disait, c'est peut-être pas nécessairement une organisation ou une personne, mais justement, nous, toutes les deux, on croit très fortement aux mouvements sociaux, aux réseaux, puis au réseautage, puis c'est justement l'information, la documentation, les articles, puis peu à peu, ça...
Parce que même quand les casques bleus en sont rendus qui violent des femmes dans les pays qui sont supposés protéger les populations, on a
un sacré problème sur les bras. Gros, hein? Ouais.
Donc, on a donc... Ce que ça nous dit dans l'article, puis que je vais vous lire des bouts, il a fallu attendre l'arrivée des tribunaux ad hoc créés au milieu des années 90. Tribunal pénal international pour l'Est-Yougoslavie puis pour le Rwanda, pour vraiment entendre parler des violences sexuelles en temps de guerre, que c'est un crime. Ça, c'est, mm-hmm. On peut être puni pour ça. Puis c'est ce qu'ils demandent là, au Guatemala, les femmes, que ça reste pas impuni, parce qu'ils savent, il y en a qui savent c'est qui, mais il y a personne qui va les punir. Donc, même lors des procès de Nuremberg, ils nous disent, tout après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a aucune accusation pour violence sexuelle qui a été portée. Mais pas plus qu'au tribunal de Tokyo, mais à la même époque, où il y avait pourtant ce qu'on appelait les femmes du réconfort, qu'eux autres, ils ont dénoncé aussi.
Tu nous éclaires? Moi, j'ai jamais entendu cette expression-là.
200 000 femmes esclaves sexuelles pour 7 millions de soldats.
Les femmes du réconfort, pour réconforter les guerriers.
Les Japonaises, il y a eu peut-être les Coréennes. Je voudrais pas m'avancer là-dessus. Là. D'ailleurs, il y a une Japonaise qui est venue au tribunal de Conciencia au Guatemala au mois de mars. Là.
Pour témoigner.
Oui, il y avait les Péruviennes, il y avait des femmes de d'autres pays là, qui venaient parler. Donc, mais dans ce temps-là, il y a placé des violations contre la dignité.
OK.
Mais tu vois, ça fait quand même un bout, là, après la Deuxième Guerre mondiale, là, les femmes ont commencé à mettre les vrais mots. Là, les femmes, les féministes, les groupes de femmes, on a commencé à mettre les vrais mots sur les vraies affaires, donc. Puis, c'est-tu quoi? C'était contre la dignité, mais la dignité des hommes qui étaient les vaincus dont on violait les femmes.
Ben oui, parce que les femmes, c'est leur possession. Ben oui, c'est sûr.
Donc, juste pour dire là, que ça a changé, ça fait pas longtemps que la notion de crime de viol, reconnue comme un crime contre l'humanité, a été introduite. Donc, on l'a élargi à d'autres violences sexuelles, grossesse forcée, prostitution forcée, stérilisation forcée, nudité forcée. Voilà. Donc, la Cour pénale internationale qui a été mise sur pied en 98 a une liste beaucoup plus explicite de tous ces crimes-là. On disait tantôt que la sensibilisation s'est faite suite à ce qui s'est passé au Yougoslavie, en ex-Yougoslavie qui n'existe plus en tant que telle, puis au Rwanda. C'est parce que les actes de violence sexuelle ont été captés par les caméras.
OK.
Il y a toujours le témoin, en direct. Donc, il y a des choses qui se sont passées.
Puis qui ont été vues et visionnées.
Oui, madame. Puis ça a fait là, qu'il y a du monde là, qui ont dit, OK, il faut faire de quoi, là, tu sais, c'est... En ex-Yougoslavie, il aurait recensé à peu près 40 000 viols, mais ça doit être comme n'importe quel cas de viol, on n'en sait jamais la moitié de ce qui s'est vraiment passé. Au Rwanda, 250 000 à 500 000 femmes. Tu vois, là, ça pourrait être le double, là. Surtout des Tutsis qui ont été violés. Puis les deux tiers de ces femmes violées-là ont contracté le sida. Fait que, même dans l'article, là, Pascal Gricolin nous dit que ce sont des chiffres vraiment atroces, là. Mm-hmm. Tu sais, il veut dire, soyons émus, là, je veux dire, ça n'a pas de crise d'allure.
Non, c'est clair.
Fait que là, après ça, ils nous parlent du Sierra Leone, où 50, 60 000 femmes violées durant la guerre civile. Il y a des chiffres qui viennent d'ONG ou de l'ONU, mais on le sait qu'ils sont toujours sous-estimés. Je pense que ça nous prend du temps, là, mais en tout cas, on sait que c'est ça, hein, c'est le butin pour l'armée victorieuse, les femmes qui considèrent que les femmes appartiennent aux soldats vainqueurs, on domine la femme de l'ennemi, ça peut aussi avoir un but de nettoyage ethnique, on viole pour qu'un certain groupe fuit une région,
oui.
Ou pour l'exterminer aussi.
Oui. Puis il y a la question de la terreur que tu disais aussi, vraiment comme un acte de terreur, répandre la terreur pour contrer l'organisation politique. Ce qui va t'arriver si tu milites.
Ben oui, ça détruit l'homogénéité d'un groupe, là. Si les femmes violées sont plus mariables, qu'est-ce qui se passe, là, toi, dans la communauté,
puis
là,
les enfants?
Oui. Imagine les enfants qui naissent de ça. Mm-hmm. Donc, ben voilà, je pense que ça nous donne une bonne idée. Il y avait une petite anecdote, c'est pas drôle, là, mais quand même, hein, parlons des anecdotes. Est-ce que quand l'interviewée ici, Fanny Lafontaine, était avec Louise Arbour, qui était dans ce moment-là haute commissaire des Nations Unies aux droits humains. Il était en train de parler avec deux hommes haut placés du gouvernement soudanais qui répondaient par rapport aux violences sexuelles qu'il y avait eu au Darfour. Fait que là, les deux messieurs du gouvernement soudanais disaient « Oui, oui, la violence sexuelle au Darfour, on est au courant. Mais entre vous et moi, là, les femmes au Darfour sont faciles.
Ah, » okay.
Louise Arbour s'est fait répondre ça.
C'est...
Et en plus, fait que voilà, hein. Donc, on pourrait dire que la communauté internationale est en train d'accomplir des grands pas là, là-dedans. Là, ça va devenir aussi grave que les autres crimes de guerre, ce qui n'était pas le cas avant.
Puis ce qui est important, ce qui est un gain là.
Imagine, c'est tout le travail des ONG qui militent pour les droits des femmes qui a dû convaincre.
Oui, il y a des luttes derrière ça, c'est clair. On va aller en musique tout de suite pour quand même prendre un peu du temps qui nous reste pour parler des fameux tribunaux de conscience.
Ma chanson préférée, toujours de Liliana Felipe, Nos tienen miedo, ils ont peur de nous.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás
su armadura militar.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo
porque no tenemos miedo. Toujours sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes en compagnie de l'équipe d'Insiskwatel. Merveilleuse chanson qu'on vient d'entendre, hein? Ils ont peur de nous parce que nous, on n'a pas peur d'eux. Vraiment une très belle chanson, Monique. Et maintenant, on entre de plein pied dans le sujet qu'on annonce depuis le début de l'émission, les tribunaux de conscience. À toi la parole.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait les 4 et 5 mars 2010? C'était ouvert à toutes, à tout le monde, en fait. On était dans un grand amphithéâtre toute la première journée, le jeudi 4 mars, j'ai pleuré toute la journée, mais je pense que c'est ça pour tout le monde, c'est la journée des témoignages. Les femmes étaient cachées, on n'entendait que leur voix. Puis les témoignages qu'on a eus, ça venait de femmes dont la voix était très assurée, là, des championnes de témoignages. Là, on les voyait même pas arriver sur scène. Là, il y avait un couloir de rideaux noirs, vraiment. Là, il y en a qui ont conté là, des histoires de lointaines et tout. Puis en même temps, tu avais une espèce de table d'honneur où il avait fait justement des juges d'honneur, dont les femmes qui étaient venues du Pérou. Donc, des femmes qui avaient vécu des situations de dictature ou de torture ou d'emprisonnement politique, qui participaient. Il y avait une femme qui avait travaillé avec les femmes japonaises pour les femmes du réconfort. Il y avait vraiment là, qui était le tribunal d'honneur, puis qui faisait comme... qu'il va y avoir une sorte de jugement là, à la fin du deuxième jour. Et le deuxième jour, on a entendu, ça faisait un peu comme un théâtre, mais je vais pas dire le mot théâtre parce que ça fait pas sérieux, mais c'était hyper sérieux, là. Tous les spécialistes, la deuxième journée, il y en a que c'était des spécialistes de déterrer des lieux d'enterrement commun, là, comment on appelle, là,
des
charniers, okay. Oui. Ils ont déterré ça, là.
Okay.
Fait que t'avais vraiment là de tout là, tu sais. Fait que puis on en arrivait à documenter la violence sexuelle contre les femmes durant le conflit armé. Donc si je reprends les mots dans les documents qui ont été produits par l'Union nationale des femmes guatémaltèques, qui est l'organisation, la principale organisatrice du tribunal de conscience, oui. Mais avec plein d'autres groupes, là.
Oui.
Avec plein d'autres groupes, puis ils ont eu l'aide aussi de financement de certains groupes internationaux, comme même du Canada. Moi, je suis Droit et démocratie, là, j'ai rencontré une femme qui travaille pour Droit et démocratie. Donc, ça donne une idée. Le groupe lui-même de ce groupe de femmes-là est né en 1980. Ils fêtaient leur 30e anniversaire.
Oui.
Fait qu'à avant d'arriver au 8 mars, je vais finir mon 5 mars quand même, là. Ouf, je suis toute émue déjà encore. Et c'était comme ça la journée. Il y avait un hommage à ces femmes-là aussi qui avaient vécu. Il y avait une vingtaine de femmes indigènes qu'on a reconnues pour leur donner un hommage. On leur a donné un petit huipil transparent blanc. Il y avait des femmes autochtones qui travaillaient dans leur communauté puis qui ont travaillé avec elles, qui ont fait un hommage. Puis ensuite, comme c'était le 30e anniversaire du groupe principal de l'Union Lunamjé, là, le 8 mars, c'était le lundi après, là, on a passé la fin de semaine. Et à Guatemala, Ciudad, le 8 mars, ça se marche un lundi matin. C'est un lundi, ben ça marche à 9h du matin. Fait qu'à 9h du matin, on occupe les rues de la capitale, puis on marche, puis c'est une belle marche colorée, des bannières. Il y a plein de groupes de femmes qui ont fait des T-shirts spéciaux pour l'occasion. J'ai jamais été capable d'en avoir un, mais jamais. J'ai tout essayé, puis je parle la langue. Il a fallu, je sais pas là que j'aille où.
Québec contact.
Puis finalement, après, on était invités, après dîner, il y avait l'Union, la Lunamjé, qui célébrait pour les 30 ans de leur fondation un hommage aux fondatrices.
Okay.
Et fait qu'on, j'ai été dans la maison de la Lunamjé, son propriétaire maintenant. Donc, ça donne une idée. Là,
De l'intensité des moments.
Puis, au début, dans les années 80, ils ont fondé le groupe après plusieurs années de travail d'implantation. Mais tout de suite, ils ont dû aller travailler. Ils ont travaillé depuis 4 pays.
Okay.
Avoisinant, je sais pas pendant combien d'années, là, mais vraiment en clandestinement là, pour les droits des femmes. Donc, c'est un espace où les survivantes témoignent. Où,
le tribunal, on revient au tribunal, là, ouais, c'est ça que tu dis, c'est un espace où les survivantes témoignent.
Ouais, si on regarde le pourquoi ils ont fait ça, eux autres. Puis il y a des militantes de droits humains, puis il y a des spécialistes en droit. Tout le monde est des spécialistes. Puis qui, les militantes des droits humains, ils deviennent aussi les procureurs et les juges, puis les témoins d'honneur. C'est ce qu'on avait. C'est un geste politique avec un profond sens éthique qui donne de grandes leçons à tout le monde aussi. En rompant le silence, les participantes de ce tribunal-là, c'est comme s'ils récupéraient une mémoire qu'ils avaient voulu oublier aussi.
Puis refouler.
T'es en train de déterrer des choses que t'as tout fait pour plus jamais
super
y penser.
Douloureuse.
Puis finalement, c'est ça. Donc, une mémoire d'histoire qui stigmatisait aussi les victimes puis qui exonérait les coupables, là. Il y a personne qui était condamné pour ça, là. Mais peut-être que ça va venir, là. Si ils peuvent avoir du succès là, dans la suite de ce qu'elles veulent faire suite au tribunal politique. Donc, c'est donc d'ouvrir le chemin de la justice puis de la réparation des crimes commis contre des femmes. Puis ils souhaitent alimenter un débat plus large aussi parce qu'ils disent que c'est pas fini, là. Il en existe encore des membres des forces de sécurité aujourd'hui, en 2010, qui continuent de commettre des actes de violence sexuelle, OK? Mm-hmm. Puis là, ils donnaient un exemple d'une qui avait été violente sexuellement pour une éviction de propriété. Puis il parle entre autres la violence ordinaire hein, de dans la maison là, c'est de la violence sexuelle, des hommes qui utilisent le corps des femmes comme si c'était leur propriété, que ce soit dans leur foyer, dans les milieux de travail ou d'études, dans les églises, les temples, les institutions civiles de l'État. Donc c'est vraiment ça. Donc on demande réparation, accès à la justice, indemnisation, puis condamner les coupables.
Mm-hmm.
C'est le but, finalement, de cette activité-là, de cet événement-là de l'Union nationale des femmes guatémaltèques. Mm-hmm. Donc, c'est certain qu'on voudrait là, que ça aille plus loin. Puis, je pense que ces femmes-là sont vraiment en train là, de travailler là-dessus.
Puis dans un article que je lisais, justement, il disait que cet événement-là, que ça soit organisé, le tribunal au Guatemala, c'était particulièrement symbolique puis émancipateur comme démarche, même si on espère quand même des résultats. Mais juste cette démarche-là, puis comme tu disais, la prise de parole, le travail pour la survivance de la mémoire aussi.
Ouais.
Puis un autre article que j'ai parcouru rapidement tout à l'heure où il disait justement, le tribunal de conscience est une action symbolique qui cherche à rendre leur dignité à toutes ces femmes survivantes de viols puis qui ont subi l'humiliation, la douleur, la marginalisation. Puis il disait, c'est pas normal quand les victimes croisent leurs agresseurs tous les jours puis que les agresseurs, en fait, en toute impunité, justement, sont fiers, vont même pouvoir les intimider encore une fois. Donc, c'est comme si le viol se poursuivait. Ça, c'est comme une manière de mettre un frein.
On disait aussi, moi, je peux juste rajouter une petite phrase pour terminer, que la vraie justice va aller au-delà des délais gouvernementaux ou légaux. Ça s'adresse à des crimes sans prescription, il ne devrait pas avoir prescription là-dessus, qui sont survenus durant le conflit armé. En plus de juger aussi des chefs d'entreprise qui violent tout le temps les lois du travail puis les lois fiscales.
Ah, mais Monique, c'est tout le temps qu'on avait. Il faut déjà conclure.
Oui,
mais vraiment, merci beaucoup. On dirait que c'est C'est ça qu'on se disait, ça nous donne envie de bouger, de lutter. En tout cas, on a comme tout assimilé ça. C'est ça qu'on se disait avec Marie-Evelyne. On y va tout de suite en chanson, puis ça va être le mot de la fin en même temps.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas saben lo máximo. Las histéricas saben lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias.
On est incapable de se passer de la musique, mais en même temps, on a des petits événements féministes à vous annoncer. Donc, moi d'abord, lancement des actes électroniques du colloque Perspectives étudiantes féministes. On vous invite à un 5 à 7. C'est au temps perdu sur la rue Mirand et c'est le mardi 16 novembre. À toi, Monique.
Au Centre des femmes de Basseville, il y a un dîner-rencontre jeudi le 11 novembre. C'est le témoignage d'une ex-prisonnière politique en Argentine qui va venir raconter ce qu'elle a vécu. Puis la lutte aussi que de nombreuses femmes ont menée là-bas, toutes des ex-prisonnières politiques en quête de vérité et de justice. Jeudi le 11 novembre de 11h30 à 14h, le Centre des femmes de Basseville est situé au 380 Saint-Vallier-Ouest, 648-9092.
Et non, vas-y, lis la phrase, vas-y.
Le petit mot de la fin. Oui. C'est une citation que j'ai depuis des années, anonyme, d'une femme autochtone d'un pays dans le monde que j'ai jamais su c'était où. On peut s'imaginer que ça pourrait être Rigoberta Menchú. Si tu viens seulement pour m'aider, tu peux rentrer chez toi. Mais si tu vois ma lutte comme faisant partie de ta propre lutte pour la survie, alors peut-être pouvons-nous travailler ensemble.
Et c'est là-dessus qu'on vous laisse. Suis immédiatement Cultivons notre hip-hop.